Bonjour, nous sommes en train de réfléchir ensemble à la manière dont Jésus nous présente, à la fois dans son enseignement et dans sa manière de réagir, ce que c'est que d'être fils, d'entrer dans cette attitude filiale. Et je voudrais revenir sur ce que nous avons dit les fois précédentes en reprenant un petit passage que j'ai déjà cité dans saint Matthieu et que je vais reprendre dans saint Marc. Je vous lis le texte de l'Évangile. C'est au chapitre 3e, verset 31. Arrivent la mère et les frères de Jésus. Restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Il leur répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Alors, par parenthèse, et avant d'entrer dans l'essentiel de ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, je vous dis en passant que l'expression « les frères de Jésus », ce n'est pas seulement par un subterfuge que nous devons y comprendre la parenté. C'est vraiment le sens, en araméen et dans toute la littérature sémitique, et contrairement à ce qui a pu être écrit récemment par des gens qui ne sont pas très au courant du dossier. Peut-être un jour faudra-t-il se donner la peine de publier le dossier complet, mais on vous trouverait ça dans certains écrits de spécialistes, d'exégètes. Je crois qu'une fois, je me prendrai par la main et je vous ferai une bibliographie un peu sérieuse pour vous aider à vous y retrouver. Mais en vous contentant, par exemple, des notes de la Bible de Jérusalem et des notes de la Tobe, vous en avez suffisamment pour être assuré que ce n'est pas une escroquerie intellectuelle que de dire que les frères signifient ici la parenté au sens large, et que ça n'implique d'aucune façon que Marie ait eu d'autres enfants, comme certains le pensent, en raison de leur propre ignorance des usages et du vocabulaire employés dans cette période. Aujourd'hui, quand je vous dis « mes frères, la paix soit avec vous », vous voyez bien que c'est en un sens métaphorique. Bon, laissons. Alors, voici la réponse de Jésus. Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur et ma mère. La réponse peut nous surprendre, parce qu'on peut l'interpréter comme une sorte de rejet de Marie, en tout cas. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Eh bien, c'est là où la connaissance précise du texte de l'Évangile peut nous permettre de mieux comprendre l'enseignement du Christ. En effet, faire la volonté de Dieu, dans notre tête, c'est en gros faire ce que Dieu commande. Et le mot qu'on emploierait derrière cela, ça serait le mot des commandements de Dieu, de la règle de conduite que Dieu demande. Faire la volonté de Dieu, c'est ça, ou bien se soumettre, certains le comprennent ainsi, à la nécessité de la vie que l'on considère comme une volonté de Dieu. Par exemple, quand l'on subit des épreuves, des maladies, ou des contrariétés, ou des circonstances que l'on n'a pas choisies. Quand les choses ne se passent pas comme l'on voudrait. Et du coup, on estime que ce qui se manifeste et qui est contraire à notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Ce qui est toujours contestable, parce qu'après tout, y reconnaître la volonté de Dieu, c'est le fruit d'un choix spirituel, c'est-à-dire de changer une nécessité heureuse ou malheureuse en une circonstance où je peux exercer la volonté de Dieu. Par exemple, est-ce la volonté de Dieu que je tombe malade? Est-ce la volonté de Dieu que je meure? Est-ce la volonté de Dieu qu'il m'arrive tel ou tel malheur? Je ne suis pas très sûr que Dieu ait voulu cela. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu, de moi? Il veut que je réponde à son amour. Aussi dans cette circonstance catastrophique, aussi dans cette circonstance catastrophique. Et il m'en donnera la force. Mais autre chose est de considérer Dieu comme la fatalité, autre chose est de le reconnaître comme la source de la liberté qui me permet de réagir aux conditions et aux déterminismes de mon existence, qui relèvent aussi de sa volonté. Mais dans la mesure où sa volonté, c'est de créer le monde, pour que dans ce monde, nous réagissions comme des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je sais que c'est un problème difficile à concevoir, ce que je suis en train d'expliquer, et que souvent les philosophes ont du mal à nous le faire comprendre. Mais ici, la volonté de Dieu, nous serions tentés de penser donc qu'il s'agit ou bien des commandements de Dieu, de ce qu'on appellerait dans un langage tout à fait courant, la morale si vous voulez, ce qui est bien, faire le bien. Et si ce n'est pas ça, c'est se soumettre aux circonstances de la vie, ce qui s'impose avec fatalité et s'y résigner. Eh bien figurez-vous que dans le texte grec, le mot que saint Marc emploie désigne autre chose que ces deux notions. Il ne s'agit pas des commandements de Dieu, il s'agit de ce que nous dirions plus justement le dessein de Dieu. C'est le mot téléma en grec, et il désigne ici le dessein de Dieu que Jésus va accomplir dans le mystère de sa passion. C'est le même dessein de Dieu que Jésus essaye d'expliquer en employant une expression qui nous choque. Il fallait que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire. Ne comprenez-vous pas qu'il faut que le Christ, que le Messie souffre pour entrer dans sa gloire? Quelle est donc cette nécessité, ce « il faut que » Il faut parce que Dieu l'a décidé, ou bien parce que l'homme étant perdu, il faut aller le chercher là où il est emprisonné. Ou parce qu'il faut que le Christ plonge dans les abîmes où l'homme s'est plongé pour le ramener à la lumière et à la vie. Parce que le mal, le péché, toutes les déraisons, toutes les folies auxquelles l'homme pécheur est conduit à son propre égard, comme à l'égard des autres, les cruautés, les injustices, les lâchetés personnelles. Voilà les êtres concrets de chair et de sang, les autres, mais nous-mêmes aussi. Et là-dessus, nous sommes tous à même enseigne. Et c'est faux que le Christ nous prenne tel que nous sommes, sinon qui prendrait-il? L'Épître aux Hébreux le dit avec force, avec un raisonnement simplet. Il n'est pas venu pour sauver les anges, il est venu pour sauver des hommes pécheurs de chair et de sang. Et c'est pourquoi il a épousé notre condition, il l'a faite sienne, et il a pris sur lui notre humanité en son état tel qu'elle est. Il faut que le Christ souffre, ce dessein de Dieu, c'est le dessein de l'amour. Ainsi, quiconque fait la volonté de Dieu, quiconque entre dans ce dessein de Dieu que Jésus est en train d'exposer aux gens qui sont réunis pour l'écouter et qui l'entourent, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Mais vous me direz, mais alors quel rapport avec le lien familial? Est-ce que c'est un bon fils qui parle? Bien, figurez-vous que dans la force de l'Évangile, nous ne pouvons pas ignorer que, comme saint Luc nous le rapporte, et comme saint Matthieu aussi nous le rapporte, mais surtout saint Luc, lorsque la plénitude des temps arrive et que Dieu manifeste ainsi ce dessein d'amour de sauver les hommes qu'il aime. S'adressant à Marie, Vierge d'Israël, il trouve en elle, préparée depuis le commencement du monde, le libre accueil d'un être disponible à la volonté de salut de Dieu. Et ce à quoi Marie souscrit d'emblée, inconditionnellement, c'est précisément ce dessein d'amour de Dieu pour sauver les hommes. Et ceci ne lui a pas été caché. Car dans les annonces messianiques qui lui sont faites au moment de l'Annonciation, c'est tout ce dessein dont l'aspect crucifié est comme annoncé en filigrane, Mais ce à quoi Marie souscrit, ce à quoi elle dit « qu'il me soit fait selon ta parole », c'est précisément cette volonté aimante de Dieu de faire que cet enfant, le Verbe de Dieu fait chair, accomplisse la volonté de salut, le dessein de salut de Dieu. Et Siméon lui aura bien dit, un glaive te transpercera le cœur, car il sera un signe de contradiction pour la révélation du secret des cœurs, pour la perte et le salut de beaucoup. Vous le voyez, Marie, comme cela sera visible au pied de la croix, comme cela sera encore visible au moment du Cénacle, comme cela est visible dans le premier signe que fit Jésus et que nous rapporte Saint Jean à Cana de Galilée, lorsqu'il manifeste que les noces finales du Sauveur et de l'humanité et de son peuple sont commencées, que l'heure est venue, Marie est la première à faire la volonté de Dieu, non seulement au sens des commandements, mais à entrer dans le dessein d'amour, dans le dessein de salut de Dieu. Être frère, sœur, mère de Jésus, c'est le suivre dans ce chemin de délivrance et de rédemption. Ainsi, tout ce que nous avons vu au cours des semaines précédentes, qui consistait à montrer comment les liens de parenté avaient des références étonnantes dans la source qui en est Dieu lui-même en sa paternité. Son modèle dans l'attitude maternelle de l'Église et de l'humanité. Sa référence dans la condition filiale de tous les ceux que le Christ appelle et que le Père lui donne pour être ses témoins et ceux qui avec lui travaillent au salut du monde. Vous voyez comment tout cela est ordonné à ce dessein de salut, à la rédemption du monde, au salut du monde. Et ainsi, c'est à cette lumière-là qu'il faudra qu'ensuite, si vous le voulez bien, nous essayons de comprendre les contradictions, les malheurs, les épreuves, les échecs de la vie familiale. Pour comprendre comment, pour des baptisés, pour des hommes et des femmes que le Christ a appelés, ils doivent courageusement porter ces difficultés qui ne leur sont pas propres, mais en même temps y trouver le lieu d'un travail d'amour, de rédemption, de délivrance, non seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux à qui Dieu les a donnés, et pour ce que Dieu leur a donné, leurs enfants, leurs familles, leurs proches, et aussi pour le monde entier. À la semaine prochaine.